La Move Session.
Alors bonsoir et bienvenue Dominique Forma.
Bonsoir.
Et Johnny Trouble.
Bonsoir.
Bonsoir Johnny. Alors, on parle d'un livre qui est absolument génial, qui est sorti chez Fayard Noir et qui s'appelle Scud, donc comme disque en verlan. Et vous pouvez pas rater, hein, vraiment, rien que la couverture, on comprend ce qui se passe. C'est un vinyle noir avec, en fait, au milieu l'étiquette, c'est une tête de mort, le tout sur fond rouge et c'est marqué illégal. Donc en fait, c'est un thriller qui parle du milieu des vinyles, comment dire, illégaux piratés.
Ah bah, tout était illégal dans cette histoire.
Ouais.
Ils sont enregistrés de manière illégale, pressés de manière illégale et vendus de manière illégale. C'est l'histoire de l'industrie parallèle du disque, en fait.
Voilà, qui est drôlement plus excitante et plus intéressante que l'industrie traditionnelle. Oui, oui, oui. Bah en tout cas, en lisant le livre, on est complètement happé par ça. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur Johnny Trouble qui
a existé.
Au sortir de l'adolescence, bah oui, puisqu'il est là avec nous.
Il est là, absolument.
Au sortir de l'adolescence, se prend de passion donc pour les vinyles et surtout donc pour les scuds, qui sont des pirates enregistrés en concert. Alors, quand on a de la chance, c'est branché sortie de console. Donc le son est très très bon. Et parfois on a un petit enregistreur sur soi dans les salles pour ensuite graver.
Mais il arrivait aussi que les groupes eux-mêmes, Clash ou Lords of the New Church notamment, ou Cramps, nous donnent carrément les bandes.
Voilà, pour faire donc ces
pour
disques
pirates.
Pour
faire un pirate, parce que par exemple ils étaient en conflit avec leur boîte de disques. Et donc ils avaient envie, certains morceaux sortent. Donc vous connaissez mieux que moi les problèmes avec les directeurs artistiques et les boîtes de disques. Et donc ils ne voulaient pas que ça sorte et habilement il me les confiait et c'était très bien.
Est-ce que tout le monde en profite? Par exemple, le concert des Cramps dans un hôpital psychiatrique, c'était disponible ça?
Ça a été filmé ça. Ça a été filmé par un label qui s'appelle Research et c'était des gens qui connaissaient les Cramps à l'époque. Donc il n'y avait plus de raison de faire un pirate. Nous, on faisait pas des pirates pour recopier des choses, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans la reproduction, la duplication de quelque chose qui existe déjà. On essayait de trouver des enregistrements que les gens cherchaient absolument.
D'ailleurs, ça c'est très important dans le livre. Johnny Trouble le dit à un moment, il dit qu'il méprise totalement les mecs qui font des pirates, c'est-à-dire des copies. Genre,
absolument.
Tu prends un album du Clash, tu le copies et tu le revends. Ça c'est mépris total.
C'est le degré zéro.
Voilà.
Aucun intérêt, aucune créativité, aucun risque.
Ça, les mecs qui font les scuds récupèrent les bandes, font des très belles pochettes et puis se débrouillent pour les vendre. Ils ont un réseau un peu dangereux parfois même.
Ça peut être dangereux, mais enfin bon, faut pas exagérer.
Ça l'était aussi, pardon. Ça l'était à l'époque, parce qu'à l'époque, à la fin des années 70, les gens qui s'occupaient de disques pirates en Europe, en France, j'étais le seul, sans prétention, mais c'était un coup de bol, mais j'étais le seul, j'ai réussi à éliminer la concurrence.
Ouais.
Mais en Italie, par exemple, ça finançait les Brigades Rouges, ou en Allemagne, par exemple, la bande Abadair. Beaucoup de gens d'extrême gauche à l'époque faisaient des disques pirates pour faire vivre leur mouvement. Donc,
mais je comprends pas, parce qu'ils les vendaient où? Parce qu'il faut quand même de la masse.
Chez les disquaires,
du temps où les disquaires existaient
encore,
où c'était pas que des grandes enseignes, et donc il suffisait d'aller voir un disquaire. Moi, j'allais à Londres ou j'allais en Italie ou n'importe où. Je m'arrêtais dans n'importe quelle ville, n'importe quelle grande ville, Rome, Milan, Berlin, Londres. Et là, j'allais voir les disquaires. Bon, je les connaissais bien sûr parce que voilà. Et tout de suite, je sortais quelques exemplaires. Je lui disais combien t'en veux. Le gars me disait 100 comme ça, 200 comme ça, 130 comme ça, 50 comme ça. Ça,
mais
voilà.
Est-ce que du coup, excuse-moi, hein, c'était plus cher parce que enregistrements,
évidemment.
Ils sont...
Ça se vend plus cher, hein, ce que
oui,
ça se vend plus cher.
Mais d'abord, plus rare aussi,
c'est
parce qu'il y en avait très peu. Il y en avait qu'un 100 exemplaires grand maximum. Donc chaque disque qui est sorti à l'époque, bon là ici, là, je suis désolé, on est à la radio, mais il y a un Cure qui est ici, où il chante un truc de Gary Glitter qui s'appelle Do You Wanna Touch Me. C'est très rare d'entendre Cure qui chante Do You Wanna Touch Me. C'est le seul et unique truc où ils font du glam rock. Et voilà. Quoi, celui-ci est sorti à 500 exemplaires.
Et les collectionneurs
maintenant,
sont prêts
à payer. Maintenant, ça coûte très cher. Sur eBay, ça coûte, je sais pas, moi je regarde pas les prix.
Non,
je,
mais celui-là, c'est quoi? C'est genre 100
celui-ci,
euros
celui-ci,
vachement
moi,
plus. Vachement plus. Je dirais genre beaucoup plus que 100
euros.
Peut-être pas, mais pas loin, 500. Quoi. Pas
ouais.
loin, 700-800 euros.
Ne le laissez pas mettre la main là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que dans Scud, du coup, on voit autant donc, tous les risques qui sont pris pour faire ces fameux Scud. On voit aussi, et ça c'est très rigolo, la sociologie du collectionneur de 10.
C'est très très bien rendu dans le bouquin.
C'est très bien rendu,
c'est magnifique.
Effectivement.
Hein.
Alors Dominique Forma, donc c'est la vraie histoire de Johnny Trouble, c'est aussi un peu la tienne. Alors pourquoi aujourd'hui sortir ce roman aujourd'hui où on pense que les vinyles sont enterrés?
Bah d'abord parce que je pense qu'ils ne sont pas enterrés. Ouais. Il y a une nouvelle curiosité de la nouvelle génération, des gamins de 20 ans qui commencent à redécouvrir les collections de leurs grands frères.
Et les groupes, ouais, c'est vrai, les on parlait des Cramps tout à l'heure. Tout le monde en parle maintenant.
Les Cramps sont un groupe qui est intéressant parce que moi j'ai vu les Cramps en 80, ça m'a permis de découvrir le rockabilly. Ouais. Je pense que des gamins de 20 ans qui découvrent les Cramps maintenant vont pouvoir redécouvrir les années 70 et puis remonter. Comme
bah
ça.
Oui, aujourd'hui il y a un groupe de bébés rockers, enfin c'est un nom un peu con, mais en tout cas qui marche énormément, qui s'appelle les Bébés Brunes. Et il y a une chanson qui s'appelle J'écoute les Cramps.
Voilà.
Et du coup, toute une génération de jeunes filles, là, on parle même pas de 20 ans, mais de 14-15 ans, qui vont écouter les Cramps, du coup.
Ben, c'est vraiment l'objectif du livre. C'était pas de l'écrire pour les gens de mon âge. Ils ont connu cette période, ils savent exactement ce que c'était. C'est plutôt pour les gens plus jeunes de leur expliquer un petit peu ce qu'on a fait, sans entrer dans la nostalgie du tout. Mais essayer d'ouvrir la porte pour que leur curiosité soit attisée. Et ensuite, libre à eux de découvrir les groupes qu'ils ont envie d'écouter.
Alors, on va continuer à en parler, mais avant, bah, du coup, on va vous en passer un de Scud.
Super.
Alors, celui-ci, donc, c'est Guns of Brixton, donc du Clash, enregistré à Paris en 1984. Alors, ça s'est enregistré dans quelles conditions, ça, Monsieur Trouble?
Il me semble que c'est soit à Mogador, soit à la porte de Versailles. Et en fait, je connaissais le tourneur qui m'a donné les bandes directement du soundboard. Et voilà, quoi. Et après, bah, une fois que j'avais les bandes, bah, j'avais plus qu'à presser, ce qui était très, très difficile à faire à l'époque parce que la SACEM veillait, continue de veiller d'ailleurs.
Meunier, tu dors?
Et il n'y avait que très très peu de presseurs de vinyle, et les presseurs, il fallait aussi payer en liquide, avoir vraiment qu'ils aient confiance en moi, etc., etc., pour pouvoir presser les disques.
Allez, donc, écoutez, voilà. Ce Scud, ce pirate, donc du Clash à Paris en 1984, Guns of Brixton, bande originale idéale donc de Scud de Dominique Forma aux éditions Fayard Noir. Voilà, c'est ça un scud. Sauf que normalement, c'est sur une platine et pas à la radio. Donc Guns of Brixton, du Clash, enregistré de façon totalement pirate en 1984 à Paris, donc par monsieur Johnny Trouble.
Et je remercie le Move de passer un disque pirate. C'est la première fois que j'entends un disque pirate à la radio.
Écoute,
du Radio Caroline.
Ouais, mais moi je me dis que de toute façon, c'est sûrement pas moi qui irai en prison. Il y a des gens au-dessus de moi.
Monsieur Fuzel.
Moi, par exemple, je pense à mon cher président. Non, et c'est totalement informatif. Il faut quand même savoir de quoi on parle. Mais c'est vrai que c'est illégal, les scuds. C'est abordé aussi dans le bouquin. Et c'est surtout que voilà, ça brasse énormément d'argent. C'est-à-dire que celui qui fait les scuds, évidemment, investit pour faire ses scuds et puis quand même récupère de sérieux bénéfices. En revanche, l'artiste dont on fait un scud et qui ne veut pas, lui n'est pas content. Alors, dans le livre, il y a un certain Duke, on reconnaît très facilement Prince, qui lui se rend compte que Johnny Trouble fait des scuds et il n'est pas content. Et là, il lui arrive vraiment des grosses misères. Est-ce que c'est à ce point-là? C'est-à-dire, est-ce que les artistes sont vraiment parfois assoiffés de sang quand ils se rendent compte qu'on les pirate?
Non, vraiment pas. Non. C'est ceux qui sont vraiment assoiffés de sang, c'est les boîtes de disques autour. C'est eux, au contraire. En général, un artiste est très flatté parce que c'est une forme de consécration quand même d'avoir un disque pirate. Springsteen fait la gueule quand on fait des pirates.
Il fait la gueule tout le temps.
C'est vrai, c'est vrai.
De toute façon.
C'est vrai, c'est un garçon un peu triste, ouais. mais beaucoup de respect quand même pour le boss. Mais sinon, non. En général, c'est les boîtes de disques qui font la gueule. Ce qui est très bien rendu dans le bouquin aussi, c'est l'atmosphère de l'époque, c'est les halles, c'est les magasins de disques qui sont devenus mythiques comme l'Open Market de Marc Zermati. C'est toute cette époque-là du temps où il y avait le trou des halles. Tout ça, c'est un document quasiment balzacien, quoi, sur ce que pouvait être le disque à l'époque.
Dominique.
Il y a un truc que je veux dire sur les artistes qu'on piratait. Et la question que je pose, elle est simple, c'est combien de châteaux Mick Jagger a besoin sur la Loire pour être riche? 3-4 normalement.
Ouais. Donc, il n'a pas encore acheté Versailles, quoi, c'est ça.
Faire un pirate ou faire 1000 pirates ou 2000 pirates comme il en existe sur les Rolling Stones, c'est un hommage à ce groupe. Ça va pas, on ne leur vole pas d'argent.
Ouais.
On permet à des gens qui ont déjà acheté tous les disques des Rolling Stones, qui ont été à tous leurs concerts, qui se sont tapés tous les trucs où Keith Richard tombait par terre où il était naze, ouais, en disant c'est le meilleur groupe du monde, on leur permet d'entendre d'autres concerts qui se passaient en 69 à Auckland ou à l'autre bout du monde.
Ouais.
Donc on aide, en fait. On n'est pas les gens qui devraient être accusés.
Oh oui, parce que c'est à chaque fois un plus. C'est pour
mais c'est ça, de toute façon, ça n'a pas été mis dans le commerce. Pointu, quoi.
Bien sûr, il faut
comment vous vivez la révolution Internet aujourd'hui alors que tout est disponible partout et qu'on trouve des miracles de trucs inédits sur Internet? Notamment, je pense, très récemment, on a retrouvé un acétate du Velvet Underground, ouais, qui était en disponibilité absolue, en intégralité, ouais, gratuit sur Internet.
En téléchargement.
Est-ce que du coup, vous avez l'impression qu'on perd en rêve, en recherche?
Moi personnellement, je ne pense pas. Si on prend l'exemple du Velvet Underground, qui est mon groupe préféré, cet album, enfin cet acetate qu'on a trouvé dans un marché opus à New York, permet à tous les fans du Velvet, et Dieu sait s'il y en a, et c'est certainement un des 3-4 plus grands groupes du monde, de pouvoir entendre la musique de cet acetate. Très bien, et si on peut l'entendre gratuitement, formidable. On ne peut pas accuser les gens de télécharger gratuitement des choses, puisque le médium permet de le faire.
Ouais.
Vous ne mettez pas les enfants dans une confiserie en leur disant vous pouvez prendre ce que vous voulez, en disant mais surtout il faut payer en sortant.
Mais peut-être aussi la question de Mathieu, c'était voilà, cet acétate, si on l'avait, justement, si on avait fait des scuds, si on avait gravé des vinyles 5000 ou je sais pas, ou même 1000, est-ce que ça aurait pas eu plus de valeur, voilà, d'avoir ces objets-là?
Non, je veux dire, à votre époque, entre guillemets, ouais, c'est sans doute plus compliqué.
Parce que là, c'est des petits fichiers MP3.
Il y a un aspect quête, une dimension de quête qui manque. Moi, lorsque j'avais 16, 17 ans, 18 ans, disons, je suis parti aux États-Unis pour aller acheter des singles de rockabilly. Bon, à l'époque, j'étais dingue de rockabilly, c'était en 71, et donc il fallait que j'aille aux États-Unis pour les acheter. Je me baladais sur les routes poussiéreuses du Texas, dans des hangars pourris, pour essayer de trouver des trucs de rockabilly. C'est vrai qu'aujourd'hui, un môme ne fait pas ça, quoi. Aujourd'hui, il s'emmerde pas, il tape le nom dans Google, il cherche, il tape plus MP3, et voilà, quoi. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que l'aspect initiatique du voyage et de la quête qui permet de rencontrer des tonnes de gens, on le perd un petit peu de ce point de vue-là, c'est un petit peu regrettable.
Bah justement, donc là, pour revivre ces ambiances, c'est génial, quoi. Pour ne pas l'avoir vécu, justement, en le lisant, on se dit j'aurais voulu naître un peu plus tôt. Donc Dominique Format, ça s'appelle Scud, c'est chez Fayard Noir et ça coûte 20 euros, croyez-moi, ça vaut bien plus. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et à quand le film, puisque Dominique quand même a ses entrées à Hollywood?
Écoutez, dès qu'un producteur m'appelle, j'ai le script qui est prêt. Et je suis prêt à tourner dès demain matin.
Bon, ça marche, c'est noté. Merci beaucoup à vous deux.
Le livre a été piraté. Il est en vente à dehors de votre studio.
On vend des photocopies. C'est dégueulasse. Merci beaucoup, monsieur Johnny Trouble et monsieur Dominique Format. À bientôt.
Merci à vous tous.
Et merci pour ce bouquin qui est génial. Allez, musique, maintenant. On se fait un petit Mickey Green. Oh. Et ensuite, on jouera ensemble au Blind Test. Vous pouvez vous inscrire en appelant maintenant 0 810 16 18 25.